Si c'est là, c'est ici.
Je parle français autrement qu'un français. Et pourquoi ? Parce que ma nationalité, elle est belge. Et donc je parle un français de belge, c'est-à-dire un français traversé par le flamand. Et ça, c'est la richesse de mon français. Donc si je n'invite pas le flamand dans ma langue, mais quel est le français que je vais parler ? Et ceux qui ne veulent pas que j'invite le flamand chez moi, alors je ne les aime pas parce qu'ils m'empêchent d'avoir un invité à mon identité. La capacité de laisser l'intrus venir à soi, c'est fondamental. Être un humain, c'est ça, par rapport à d'autres humains.
Pierre Vinck, vivre, c'est douter.
Quand on arrive au Rwanda, après le génocide, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment parler aux gens, je ne sais pas qui est qui, je ne sais pas... Forcément, tout le monde parle du génocide. Entre les expatriés, c'est le sujet favori. J'ai parfois le sentiment qu'on parle de ça à juste titre, mais qu'en même temps, il y a comme quelque part une sorte de obscénité, le mot est vraiment trop fort, mais quand même, la rencontre qu'on peut avoir les uns avec les autres devait aussi se construire sur autre chose que l'évocation d'une horreur qui est vécue unanimement. Ce qui est paradoxal, puisque nous sommes unanimement choqués par le génocide et nous avons été unanimement si peu choqués au moment où il s'est passé, au moment où il s'est préparé. Donc il y a quelque chose qui doit être très violent pour les victimes du génocide, de voir tout le monde en parler alors que c'était si difficile d'en parler avant. Pour moi y compris, je n'étais pas de ceux qui avaient conscience de ce qui se passait. J'ai l'impression que l'attitude à avoir est de ne pas céder à cette fascination. Je me souviens d'un rêve que j'ai fait à un moment donné. Je rentrais dans une pièce où il y avait un vieux Rwandais qui m'invitait à fumer la pipe avec lui. Un rescapé du génocide, assis sur le sol, dans sa hutte. Et il y avait une autre porte où se tenait une réunion très importante sur l'injustice. Et je ne savais pas où je devais aller. J'hésitais. Est-ce que je fume la pipe avec lui ou est-ce que je vais à la réunion avec la Commission européenne ? Oui, peut-être entre les deux espaces. L'espace de la Commission et l'espace du vieux fumeur de pipe.
Aujourd'hui, nous allons rencontrer Pierre Vinck, un acteur, metteur en scène et juriste belge. Pierre Vinck se trouve être aussi l'initiateur de cette série radio, puisqu'il a été le directeur de RCN Justice et Démocratie pendant 10 ans.
Je suis né à Etterbeek en mai 53. Ma mère avait perdu 2 enfants en Afrique et donc était rentrée d'Afrique pour ma naissance. Je suis reparti très vite au Congo belge à l'époque. Je devais avoir 6 semaines et puis j'ai vécu toute ma jeunesse au Congo. Mon père était arrivé un peu par hasard au Congo. En fait, il avait suivi son propre père qui avait fui l'Allemagne nazie. Bon, il s'est mis à travailler dans les plantations où il dirigeait les gens qui travaillaient dans les champs. Je suis le petit blanc dans la forêt avec mes parents et puis, oui, je suis un petit Tarzan autour d'une corde, quoi. Je vis hors du monde, en tout cas un peu hors de l'Occident. J'ai des souvenirs au début, puisqu'on était dans les années 50, au début de la mixité entre les Noirs et les Blancs, puisqu'on les appelait comme ça, que je pensais qu'on ne s'appellerait plus des Blancs et des Noirs, mais on s'appelle de nouveau comme ça souvent. Je voulais être ambassadeur. Le mot déjà, hein, ambassadeur, c'est beau comme nom quand même, hein, ambassadeur. L'ambassadeur, c'est celui qui a quitté son pays, qui représente son pays ailleurs, donc c'est déjà quelqu'un qui est partagé. Et je crois que j'avais capté aussi que c'était pas non plus lui le chef. Il n'était jamais qu'entre les deux, donc il était aussi un intermédiaire. Et ça, encore maintenant, je trouve l'intermédiaire, je trouve que c'est une place magnifique. Donc ça me plaisait bien. Il interprète, hein. Il parle au nom d'eux, donc il est déjà un peu décalé. J'ai fait ma troisième primaire au collège Boboto, en face du bureau d'RCN, à Kinshasa. Et là, c'était clair, on était Congolais et Belges ensemble. Je me souviens, oui, parce que c'est après l'indépendance, je ne sais plus trop à quel moment. En tout cas, c'est ma sœur qui m'a dit, hey, « Hé, Pierre, c'est plus comme avant, hein ?» Donc, elle m'a dit aussi simplement dans la rue, elle m'a dit à un moment donné, « Mais non, on est au Congo, on n'est pas chez nous. » Qu'est-ce qui se passe au Congo ? C'est les Belges n'ont plus le pouvoir, ils ne sont plus les chefs. C'est ça que ça veut dire pour nous comme enfants. On commence à se rendre compte comme enfants qu'on est aussi dans un monde politique où il y a des guerres et des ennemis, des alliés, du pouvoir et des volontés de pouvoir. C'est à ce moment-là que je me rends compte de ça. Et là, j'ai des souvenirs d'évidence. D'évidence qu'on est tous pareils. Enfin, tout ça, c'est, je comprends très vite. Hein. Je veux dire, il suffit que le premier de classe soit congolais, c'est réglé, quoi. Donc, s'il y avait des relents ou des restes de sentiments de supériorité ou des relents de, pas de racisme, mais de racialité, quelque chose comme ça, ben, à ce moment-là, ça commence à casser, quoi. C'est évident. Les boys ne mangent pas avec nous, donc ça, c'est pas, c'est encore comme ça aujourd'hui avec les expatriés. Mais on joue ensemble comme enfants et on joue, c'est-à-dire on se touche, on transpire ensemble, quoi. Donc ça, c'est vraiment très important. Mon père a convaincu ma mère de m'envoyer en Europe pour étudier. Donc quand on est arrivé en pension et que ma mère m'a déposé, elle est restée avec moi un peu et puis elle a fermé la porte. Quand la porte s'est fermée, je me suis retrouvé avec 30 gosses que je connaissais pas, dans un pays que je connaissais pas. Là, d'un coup, ça m'a fait... ça m'est tombé dessus, quoi. Ça s'impose à toi et tu ne veux pas. C'est insoluble. C'est insoluble. Je pense que devenir fou, c'est possible. Je crois percevoir ce qui pourrait te rendre fou dans le sens où tout d'un coup, tu n'existes plus. Il y aurait comme ça plus de moi. Tout d'un coup, tu n'es plus que le lit, tu n'es plus que le mur, tu n'es plus que le rideau, c'est fini, quoi. Moi, j'ai eu ce sentiment-là, mais bon, il faut être un peu poète aussi, hein, parce que... Je veux dire, c'est aujourd'hui que je le dis comme ça, et je l'ai vraiment senti, ne plus exister, tellement ça fait mal, quelque chose comme ça. Tellement tu peux pas le dire, tellement tu sais pas le dire, tellement personne n'écoute, ou tellement toi-même t'es... C'est ça qui m'a ouvert, alors, à toute la démarche d'anthropologie théâtrale. C'est trop malin. Qui m'ont permis de marcher dans la nuit, de vivre sans savoir, de lâcher les béquilles. Enfin, je pense que c'est ces expériences, ces traumas-là, qui m'ont initié aussi à quelque chose. Je n'ai que déjà comme enfant des exemples que les systèmes ne fonctionnent pas. Je suis déjà pris dans les brèches des systèmes. C'est-à-dire, pour moi, à l'époque, le héros le plus emblématique de cette situation, c'est Croque-Blanc. C'est Croque-Blanc qui m'explique tout ça. Qui me dit que tu sors d'un système d'une injustice pour tomber dans une autre. Et qu'au fond, il faut faire ton chemin à travers ça. Et que ton chemin, il n'est pas forcément brillant, il peut être très médiocre, il peut être fait de plein de lâcheté, ce sont des chemins de survie, il peut être fait parfois de courage. Tu peux être relâché par ceux à qui tu adhères, aussi bien que par ceux à qui tu n'adhères pas. Tu peux parfois être sauvé par des gens à l'idéologie desquels tu n'adhères pas. C'est aussi parfois eux qui te tendent la main, etc., etc. Et Croque-Blanc, identification immédiate quand je lis ça à 9 ans. Je le relis à 12 ans, je le relis à 18 ans, et à chaque fois, c'est la même puissance. Alors, Croque-Blanc, c'est... Il va tout le temps être entre chien et loup, parce qu'il passe aussi d'une civilisation à une autre. Il est entre plein de choses, et il découvre plein de choses, et il passe d'un monde à l'autre tout le temps. Alors, en pension, mais tu deviens vite ami avec la bande, tu deviens une espèce de membre de la tribu de la pension. Où il y a aussi beaucoup d'Africains, donc là aussi il y a une mémoire africaine qui reste. C'est l'histoire qui nous met tous ensemble dans les mêmes pensions, les fils de riches africains et les fils de riches blancs, ben, on est en pension ensemble. Donc on se retrouvait à devoir nous gérer la post-colonie dans les années où il y avait quand même beaucoup d'événements politiques qui devenaient, alors eux, violents. Il y avait Moulélé, Mobutu qui prend le pouvoir, une série d'événements traumatisants enfin, dans l'histoire politique. Mais nous, on se retrouvait quelque part témoins ou en tout cas les enfants de ceux qui faisaient l'histoire dans ces pensions. Ma révolte, elle est assez vite devenue une révolte artistique aussi. Je la colle sur des mouvements sociaux, sur beaucoup de bénévolat au niveau social. Je suis tout de suite chef louveteau, chef patro, le samedi, le dimanche, je peins, je fais du théâtre. J'ai fait 1000 choses qui me permettent d'exprimer tout ça. Et en même temps, la période où je m'éveille à une conscience un peu sociale et un peu politique. Et alors derrière ça, la difficulté, mais aujourd'hui, de compréhension de ces identités multiples et la difficulté de faire une synthèse avec ça. C'est-à-dire de revenir sur le passé parental et sa dignité, et en même temps sur l'indignité, ou en tout cas l'injustice que cause le colonialisme, en même temps la conscience que l'histoire des colonisations, c'est aussi l'histoire du monde, et alors aussi le malaise que moi je peux ressentir quand je suis plutôt dans une identité de révolté contre le racisme, et quand je suis dans l'identité du fils de colon, qui participait, ne serait-ce qu'à la fin de cette histoire-là, quand même, à une histoire qui avait généré des sentiments raciaux, ou en tout cas des idéologies de supériorité raciale, etc. etc. Donc, d'avoir une double appartenance, c'est pas si simple que ça, après, de se maintenir dans une autre posture que soit celle du révolté, ou soit celle de la défense de l'indéfendable. C'est à ce moment-là qu'intervient la question de la responsabilité pour moi et la question d'endosser ou pas l'histoire qui me précède. Et je sais qu'aujourd'hui, je suis choqué par le Belge, fut-il colon ou pas colon, qui dit que l'histoire coloniale n'est pas son histoire. Je veux dire, c'est l'histoire de notre civilisation, nous sommes les fils de cette civilisation, et donc endosser la mémoire des choses, pas seulement dont on a souffert, mais aussi des injustices qu'on a commises en tant que civilisation. Et je pense que par rapport au colonialisme, qu'on était fils de colon ou pas, mais fils de colon peut-être de manière plus aiguë, il faut assumer et reconnaître le rôle qu'on a joué. C'est quand même difficile de reconnaître. Ce n'est pas forcément un aveu, hein, c'est une reconnaissance. Je crois qu'on a besoin de cette reconnaissance pour être soi. Et d'ailleurs, je pense que les relations entre Congolais et Européens restent encore fort teintées du post-colonialisme. Et donc, même si les choses se sont transformées, même si l'égalité raciale est de plus en plus acquise dans les consciences, en même temps, il y a un passé qui est là. On n'a pas fini avec ce passé. Il y a encore des injustices qui se colorent, qui se colorent. Donc je pars à Namur, en côte, et je fais le droit, parce que le droit mène à tout point, quoi. Tout ce qui, chez moi, ne tient pas va craquer, mais tout ce qui est vivant va être éveillé. Et là, ce qui me retient, moi, au droit, commence vraiment à s'étioler. C'est déjà en première licence que je découvre la psychologie, et aussi le théâtre. Et une véritable conviction aussi que, au bout du compte, ce qui transformera le monde, si ça nous intéresse, c'est d'abord notre propre transformation. Et ça, j'en suis fermement convaincu, en tout cas pour ce qui me concerne. Il va falloir que je me regarde un peu plus en face, et ça, c'est la psychologie qui va me l'offrir. Donc, c'est sans doute à peu près à ce moment-là que je commence une analyse aussi.
Pierre Vinck poursuit sa licence en droit, mais s'en éloigne petit à petit. Ce qui va l'amener à une aventure de 10 ans en tant qu'acteur et metteur en scène dans le monde du théâtre.
Et donc j'erre un petit peu au milieu de tous ces intérêts et désintérêts, avec un fil qui est peut-être déjà celui de la représentation. Là, pour moi, il y a des moments fabuleux où, au bout du compte, je découvre que l'inconscient, ça existe, qu'il est toujours là, que la conscience s'élargit au fur et à mesure de la découverte de ce qu'on ne voit pas, de ce que je ne vois pas, chez moi d'abord, mais aussi dans le regard qu'on porte sur le monde et sur les autres. On peut tellement découvrir à quel point on n'est pas celui qu'on croit, et c'est tellement important dans sa relation aux autres, puisque ça veut aussi dire qu'ils ne sont pas ceux qu'on croit non plus, et que quand on est averti de ça, peut-être qu'on peut aussi inventer des relations sociales. Puisque si je est un autre, en tout cas si je n'est pas celui que je crois, ben, je peux laisser le même crédit à l'autre dans les deux sens. Un certain scepticisme optimiste, voilà. quand tu découvres ta violence, quand tu découvres ta volonté meurtrière, quand tu découvres ta capacité amoureuse vis-à-vis de tes ennemis, enfin, tout ça, tu te dis, oulala, oulala. Et que c'est une espèce de vigilance permanente sur ce qui nous échappe, que ça nous échappe. Au fond, peut-être que la loi, ça a beaucoup à voir avec l'idée que l'inconscient, ça existe. Mais au fond, qu'est-ce qui construit notre identité? C'est des expériences, c'est des actes, c'est des rencontres, c'est des gens. C'est ça qui fait qu'on est soi. C'est compliqué. J'ai l'impression que pour être soi, il faut en même temps imaginer l'envers de soi. C'est aussi une capacité d'appartenir à l'endroit où on se trouve. Forcément, on se trouve plus ici que là, mais on doit toujours être capable d'être là-bas quand on est ici. Ou d'appartenir potentiellement aussi à d'autres espaces, ceux qu'on ne connaît pas, et donc à l'incertain. C'est aussi être capable d'inviter à son émotion, d'inviter à son intelligence des intrus. C'est ça, être soi. Il va arriver alors que je lis un livre, c'est un livre de Grotowski, ça s'appelle « Vers un théâtre pauvre ». Alors là, il y a un problème, c'est que le stage que Grotowski propose, c'est à peu près en même temps que mes examens. Et donc, je décide de ne pas finir mes études de droit. Et je suis choisi par Grotowski. Donc, adios le droit. Et vive le théâtre. Et c'est vrai que ce metteur en scène-là, en même temps qu'il travaille la question de la représentation, il travaille aussi cette question de l'humanité. Je trouvais qu'il y avait une vocation politique, en tout cas au théâtre, qui touchait à des questions comme ça. Et donc je voulais attirer l'attention là-dessus. Je trouvais que la fonction politique du théâtre, c'est aussi de permettre de comprendre, de rencontrer la mort sans ni la donner ni la recevoir. C'est proposer la catharsis sans que justement on meure. De montrer le pire sans qu'il arrive. De permettre à la cité de voir cela, à quoi elle échappait. Quand elle décidait de s'organiser en démocratie, quand elle décidait d'avoir un système social, quand elle décidait de... C'était de ça qu'il s'agissait. Et donc, j'étais très fâché sur l'art qui distrait, parce que l'art qui distrait, c'est l'art qui nous distrait de ce qui va nous arriver. De quoi devons-nous être distraits? Pas du principal, en tout cas. Pas de la tragédie humaine. Alors, si ce n'est pas la nôtre, en tout cas, c'est celle de trois quarts de l'humanité. Donc... Et puis, j'ai arrêté. Je me suis dit, bon, ça suffit. Ça donnait quoi à qui? Je sais qu'à un moment donné, je me satisfaisais de l'idée qu'il fallait continuer à crier, même si le désert arrivait, mais je sais pourquoi j'ai abandonné. Ça valait la peine.
Pierre Vinck va une nouvelle fois poser ses questions dans un autre langage, celui de juriste désormais. À 43 ans, il se réinscrit à l'université pour obtenir, après 20 ans, sa licence de droit. Son diplôme en poche, Pierre est alors engagé par Avocats sans frontières pour une mission d'appui à des avocats au Rwanda. Le Rwanda a vécu l'innommable lors du génocide de 1994 et le pays est profondément meurtri.
C'est un Rwandais qui m'a aussi... expliquer la place qu'avait pris la mort dans la vie et qu'avait pris la vie dans la mort. Les morts étaient là, les vivants étaient morts. C'est aussi ça que le franchissement des interdits et des lois avait provoqué. C'est-à-dire que les personnes qui vous parlent sont dans un autre... comment je dirais? Sont sur un autre plan. Ils vous parlent pas du même plan que vous. Il se fait que vous êtes au même point, mais c'est de la géométrie dans l'espace. La surface sur laquelle ils sont n'a rien à voir avec la vôtre. Lui, il parle avec vous, mais il pense que demain, il sera mort. Il pourrait être mort pour X raisons. Vous, quand vous parlez avec votre univers occidental, vous ne pensez pas à cela. Et puis, quand il parle, il a ses morts avec lui, il a ceux qu'il n'a pas enterrés. Cette mort, elle est là. C'est pas le cas pour vous. Donc, les coulisses de nos mots sont vraiment pas les mêmes. Vraiment pas les mêmes. C'est le moment de laisser la place, quand même, aussi, je trouve. Tout ce qui est vécu et ressenti beaucoup plus fort qu'ailleurs, un procès au Rwanda est suivi par 2000 personnes qui ont été victimes du génocide. Et donc, participer à cet événement-là, et pour moi, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Quand je vois ce... Oui, j'utilise le mot, tant pis. Ce rituel de reconstruction. Oui, je suis convaincu que c'est un grand moment. Quelque part, on détermine un temps, le temps du procès, qui est un temps en soi. Donc ça veut dire qu'on a créé un espace et un temps où on va parler du passé. Tout le monde s'arrête, la société s'arrête, elle va regarder et réinterroger quelque chose qui nous pose problème. Et pour ça, on va, quelque part, le faire revivre aussi. On a réveillé le passé pour essayer de le comprendre. On fait revivre le passé et donc on fait parler les morts. Et donc le temps est arrêté, mais une fois que le jugement sera donné, le temps sera libéré. C'est ça la dimension rituelle. La scène est organisée pour que cela se passe. Je ne dis pas que cela se passe, mais j'ai l'impression que c'est le projet. Peut-être c'est une autre étape dans notre humanité que d'inventer un jour quelque chose qui nous éloigne encore plus de la vengeance. Je pense aussi que la justice est souvent considérée plutôt comme une accusée que comme une victime. Et je l'ai vu, moi, souvent victime en tant qu'institution, victime des autres institutions. C'est une institution que je chéris et que je trouve souvent inconsidérément méprisée et dont on ne mesure pas la fragilité. Mais c'est une vieille valeur et c'est une valeur pour demain aussi. Bon, je pense vraiment ça fort. Dans les mécanismes de construction de génocide ou de crimes contre l'humanité, ça vient petit à petit, ça se construit lentement, et parfois le droit est capté, la justice est capturée par des idéologies génocidaires. À ce moment-là, c'est violer le droit et la morale du temps qu'il devient important de faire. Je pense qu'à certains moments, la désobéissance à ce qu'il est convenu de faire est considérée comme normale, à savoir tuer. C'est la capacité de désobéir à la loi qui devient importante. Et les actes justes sont des actes souvent de désobéissance. C'est des actes de liberté. Pourquoi pas faire entendre à ceux qui nous écoutent là maintenant, donc pas la force des gens de bien, la force du bien, la force de ceux qui les a poussés à vouloir affirmer des valeurs, vouloir défendre la reconstruction de leur société, vouloir à tout prix défendre la valeur de la vie, vouloir à tout prix être des humains, comme une espèce d'urgence de dire « écoutez, regardez là, et regardez ce qui vit, regardez, regardez du vivant. » Le vivant de là-bas, qui est si noir, qui est si triste et si foutu, ben non, regardez là-bas ce qui existe, regardez cela. Que ce soit rwandais ou de Molenbeek, c'est tout profond et tout simple.
C'était Pierre Vinck, vivre, c'est douter. Si c'est là, c'est ici. Une série d'émissions proposées et produites par RCN Justice et Démocratie. Réalisée par Pascaline Adamantidis. Mixée par Olivier Ruten. Sur une musique de Daniel Stockard. Avec la participation d'Olivier Ruten aux guitares. Cette série d'émissions a été réalisée avec les soutiens du ministère fédéral des Affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement en Belgique et l'Union européenne.